On retrouve Marie-Ange Cookie sur RCFM. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Valérie.
Et on continue avec vous à parler des enfants.
Des enfants.
Et sachez qu'il existe aussi, eh bien, de la, les enfants peuvent méditer. Parce que quand on est petit, on est impatient. On a ses propres envies, ses propres impulsions. Voilà, l'impatience.
Oui, l'impatience, puisque les enfants, ils ont des tas de choses à faire. Pas que les petits. Regardez leur planning. Ils ont parfois des plannings de ministres. Ils ont une vie sociale, c'est incroyable.
Les enfants.
Donc, nous devons leur apprendre aussi à débrancher le mode pilotage automatique, leur apprendre à prendre le temps de s'asseoir pour ne rien faire. Et à mon époque, les enfants, ils traînaient en pyjama le mercredi matin. Ils rêvassaient. Et pour mieux continuer la journée, les devoirs, le sport. À présent, ils ont très peu de temps.
C'est vrai qu'ils ont des agendas de ministres, les petits.
Je vous assure. Ils ont une vie sociale, c'est incroyable.
Alors, vous pensez, Marie-Ange, qu'on a oublié de prendre le temps de s'asseoir pour ne rien faire ?
Oui, et certains,
les
ils oublient...
Adultes et enfants. Hein.
Oui, et certains, ils oublient même de respirer. Les adultes comme les enfants. Et certains enfants disent à des parents, parfois, ça c'est un cas réel, vite, 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 ils ont 18 mois, c'est maman et papa, mais après c'est vite, vite, vite. Donc, apprenez-leur à respirer pour les habituer dès leur plus jeune âge. Et la méditation en pleine conscience, ou la méditation en marchant, est une gymnastique du mental, dit Christophe André. Au Canada, cela fait plus de 10 ans qu'on apprend aux enfants à méditer.
Des futurs bouddhistes.
Quand même pas, peut-être pas, mais des futurs plus calmes.
On entend de plus en plus que les bienfaits de la méditation, même vous nous le dites sur les enfants et dans les écoles à présent. Donc, voilà.
Oui, il était temps, hein, Valérie. Hein. Des chercheurs mettent en évidence des déséquilibres dans les connexions de différentes régions du cerveau, par exemple chez les enfants en surpoids, et suggèrent que manger en pleine conscience pourrait constituer une voie thérapeutique. Ce sont des nouvelles découvertes.
Manger en pleine conscience, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire que plutôt que de manger à toute vitesse, c'est de manger sans savoir si c'est un remplissage, manger peut-être plus lentement,
important
en pleine
pour la digestion aussi,
et à goûter quelque part la digestion, elle se fait entre les dents. Si on mastique longtemps, il y a de meilleurs résultats au niveau de la digestion.
Alors la méditation, elle aiderait donc à diminuer, Marie-Ange, si je vous suis, l'impulsivité et à mieux contrôler l'envie de manger, en
oui.
Fait, c'est
alors
bon pour le régime.
Oui, l'alimentation.
C'est bien pour le régime.
Bien sûr, et l'exercice physique, un programme alimentaire. Alors, les chercheurs ont examiné, à l'aide d'imagerie par résonance magnétique, le cerveau de 38 enfants de 8 à 13 ans, dont 5 sont en excès de poids. Et ces données ont été recoupées avec un questionnaire sur le comportement alimentaire. Et les chercheurs estiment aujourd'hui que la pleine conscience permet d'augmenter l'inhibition et diminuer l'impulsivité qui pourrait aider à moins manger.
Alors, on peut expliquer un petit peu ?
C'est-à-dire qu'en mangeant en pleine conscience, la personne ne va pas engloutir. Elle va savourer le goût, elle va prendre le temps de mastiquer. Et la digestion, elle se fait entre les dents. Donc, il y aura une meilleure assimilation et certainement moins de problèmes.
Moins d'ulcères à l'estomac.
Oui. Entre autres.
Et pour les petits, c'est un apprentissage. Donc.
Oui, c'est un apprentissage. Et pour les adultes aussi, bien sûr.
Alors, vous pouvez nous expliquer, Marie-Ange, la différence entre la relaxation et la méditation ?
Alors, la relaxation, elle vise un relâchement, une détente physique.
C'est le lâcher-prise ?
Lâcher-prise, musculaire et émotionnelle. Et la pratique, elle est orientée vers un objectif attendu. Les pratiquants, ils cherchent à atteindre cette relaxation. Et la méditation ne vise pas l'atteindre d'un objectif particulier. Elle ne cherche pas un relâchement musculaire, mais correspond à un mode d'être ouvert à l'expérience du moment, quelle qu'elle soit, sans chercher à modifier le moment. Et les bénéfices observés en lien avec la pratique ne sont pas recherchés dans les séances. La méditation, elle correspond à un mode d'éveil, d'attention et de conscience. On vit ce qui se passe dans l'instant. Si demain, vous faites une marche méditative, vous marchez, vous prenez conscience du sol sous les pieds, vous regardez, vous ressentez vos mouvements, vous n'attendez rien, vous marchez en conscience ou vous mangez en conscience.
Quelle est l'efficacité de la méditation ?
Alors,
on va expliquer pour nos auditeurs.
Oui,
bien sûr.
Alors, la pleine conscience, elle présente des preuves d'efficacité comme l'approche de réduction du stress. Elle est utilisée pour apprendre à gérer soi-même son stress.
Voilà, vous en parliez avec le repas,
oui,
par exemple.
Voilà, et elle est même utilisée maintenant dans les hôpitaux.
Oui, de quelle façon ?
La méditation de pleine conscience,
oui.
À l'hôpital Sainte-Anne à Paris.
À Paris ?
Je vais en parler, oui.
D'accord. Nous allons justement en parler dans notre prochaine émission. Marie-Ange Cookie, on vous retrouve demain sur RCFM.
À demain, Valérie.
Vous êtes sur RCFM et on retrouve Marie-Ange Cookie qui nous accompagne pour notre chronique Belle Anima pour prendre le temps pour déstresser, pour méditer, Marie-Ange. On avance.
On avance, progressivement.
Séance radiophonique. Marie-Ange, qu'est-ce que c'est la différence entre la pression et le stress? J'ai la pression.
Alors, la pression, Valérie, elle vient de l'extérieur. Vous êtes en voiture, vous êtes dans l'impatience, il y a des embouteillages. La pression, elle est là. C'est le principe de la réalité, puisque nous ne vivons pas dans un monde de bisounours.
Et non.
Mais le stress, il vient à l'intérieur. Et le stress, je peux l'observer et ensuite le vivre différemment. Et si nous méditons quelques secondes, plutôt que de se crisper intensément et de radoter inutilement, inspirez, expirez, laissez accueillir et tout se modifiera. Nous n'allons pas changer l'extérieur, ni la météo extérieure.
Pour les changer.
Mais nous allons changer notre météo intérieure en quelques secondes. Et les personnes qui me connaissent et qui exercent savent que c'est possible.
C'est vrai, oui, puisque vous êtes depuis combien d'années maintenant, Marie?
23 ans.
23 ans,
23
sur,
ans. Sur le terrain.
Sur le terrain,
sur le terrain.
Donc méditer, c'est l'une des clés du changement dont a besoin notre mental, notre corps et aussi nos sociétés,
si
je comprends bien.
Oui, puis par exemple, une marche méditative, vous pouvez même le faire chez vous. Imaginez, il pleut. Allez, vous allez régler un minuteur si vous le souhaitez. Vous allez vous tenir debout, alerte, digne, les épaules détendues, les bras qui tombent naturellement sur les côtés, conscient de la respiration. Puis vous allez passer à l'étape suivante. Vous allez faire un pas après l'autre en décomposant les mouvements comme un automate. Vous allez porter votre attention sur les pieds, le pied gauche, le pied droit, la façon dont se déroule la plante des pieds. Observez l'intelligence du corps qui anticipe le pas suivant et continuez à marcher en pleine conscience, pas à pas, pendant le temps prévu. C'est une méditation, tout simplement.
Donc c'est une aventure intéressante, passionnante, dont vous nous parlez.
Oui, c'est
ça,
une
Marie-Ange.
Découverte magnifique, magnétique, qui se pratique progressivement. Et j'évoque à nouveau sur le cerveau David Sarmange-Reber, ce fabuleux psychiatre décédé, qui a beaucoup évoqué les bienfaits de cette pratique, notamment sur le psychisme. Et méditer, c'est entrer dans une relation plus éclairée avec soi-même, mais aussi avec ses proches, avec les autres, avec la planète. C'est être plus éveillé, c'est être plus clair avec soi-même et mieux se connaître aussi.
Et mieux affronter les tempêtes.
Les tempêtes.
Il y en a des tempêtes, hein ?
Eh oui.
Donc la méditation, ça nous permet, Marie-Ange, de s'apaiser, d'être mieux intérieurement. Elle diminue aussi les agressions, les impulsions, tout ce qui se passe à l'extérieur finalement.
Oui, quelque part c'est comme un chantier de nettoyage qui nous libère de nos ruminations pour nous ouvrir mieux aux autres. Et finalement la méditation c'est comme une étape, comme un retour à nous-mêmes pour nous reconnecter à ce que nous sommes, parce que nous nous connaissons si peu quelque part. Et en se connaissant, il y a l'autre, on va s'ouvrir davantage à l'autre, aux hommes, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Il y aura beaucoup plus de compréhension et de compassion.
Donc elle nous fait prendre conscience, elle nous fait faire la différence entre cette fameuse pression, entre la pression et le stress, c'est ça ?
Oui, oui.
Puisqu'on en parle dans cette chronique.
Tout à fait, oui, puisque nous sommes plus ancrés à notre terre, quelque part, à notre arbre, à nous-mêmes et aussi aux autres. Et si la méditation permet l'apaisement, le discernement à l'intérieur de nous, elle va diminuer les agressions, les impulsions à l'extérieur, puisque chaque jour, on va sentir la différence, on va être plus présent aux autres, on va mieux écouter, dans l'écoute active, même dans les négociations familiales, amicales, internationales, avec nos enfants, nos petits-enfants. Et regardez autour de vous, est-ce que les gens écoutent beaucoup ?
Non. Donc c'est important aussi pour l'écoute.
C'est aussi pour l'écoute, oui. Puisqu'il y a beaucoup plus de calme, beaucoup plus de recul.
L'écoute de l'extérieur et l'écoute de soi-même, finalement.
Oui. Elle nous aide à prendre conscience, à faire la différence entre la pression et le stress, comme vous disiez. On ne peut pas changer la météo extérieure, mais on peut changer notre météo intérieure. Et nous allons écouter les mots différemment. Nous allons compter sur nos deux oreilles pour nous donner notre point de vue. Mais on va écouter pleinement et entièrement.
Alors demain, avec vous, Marie-Ange, on va parler de tout ce que ça améliore, la méditation.
Tout à fait, Valérie. À demain.
À demain. La méditation, on en reparle donc demain avec Marie-Ange Coux, qui est une chronique à podcaster dans Belle Anima sur notre site d'RCFM. Marie-Ange Coux, on la retrouve avec plaisir. Marie-Ange, bonjour.
Bonjour Valérie.
On prend le temps, c'est nos minutes zen sur RCFM avec Belle Anima, avec vous. spécialisée, thérapie comportementale, hypnose.
Ericksonienne.
Ericksonienne, tout un programme.
Tout un programme.
On va pas s'allonger sur le canapé. Encore.
Non, pas
sur
encore.
Sur le divan, pas encore. Bon, pour la psychanalyse, vous repasserez. En tout cas, on va parler de la méditation. Alors ça améliore un peu tout, la méditation, d'après ce que j'ai compris depuis le début de ces chroniques.
Oui, c'est un art d'être, ça correspond à nos valeurs, à nos missions de vie. Quelque part, cette méditation de pleine conscience qui est vécue va nous apprendre à déstresser sans avoir d'attente. Mais l'apprentissage, 5 minutes par jour et non pas 3 quarts d'heure de temps en temps, va améliorer notre vie entièrement.
Par exemple, la méditation, la fameuse méditation de pleine conscience. On est conscient donc de ce qu'on fait.
Oui, toute la journée, nous pouvons faire des rappels et être présents. Allez, exemple, vous faites la vaisselle. En faisant vraiment la vaisselle, ressentir l'eau sur les doigts, la matière de l'assiette, et non pas penser à la tâche suivante. En dégustant un fruit, en portant l'attention à chaque saveur qui se déploie dans notre palais, l'air frais dans un jardin, le soleil sur la peau, la sensation de l'eau, c'est être en pleine conscience. Là, nous sommes face à face, les pieds là, sur le sol, je vous regarde, j'écoute le silence quelques secondes. Voilà, je suis là dans l'instant présent.
Donc, c'est un calme intérieur, c'est ça? Regarder profondément dans le cœur des choses, à l'intérieur des choses?
Oui, en compagnie de nos amis, de nos conjoints, en racontant une histoire à nos enfants, en écoutant pleinement les mots que vous prononcez et que vous écoutez, en regardant la lumière qui pétille dans leurs yeux, quand ils racontent avec joie. Voilà, la méditation, elle est déclinable
à
l'infini.
À mille choses.
À l'infini.
Alors, c'est le but, c'est de se détendre, c'est ça?
Alors, la relaxation, elle a un but de se détendre. C'est l'inverse de la méditation. La méditation, elle n'a aucun but, ni d'expérience. Elle n'est pas déterminée à l'avance. Elle se vit dans l'instant, ce que nous sommes dans l'instant et ce qui se passe. Rien de plus.
C'est ça? C'est le seul but. Hein.
Oui.
Donc, finalement, il n'y a pas de réussite, pas d'échec. C'est bien?
Oui.
C'est juste de savoir se contrôler, se maîtriser?
Même pas. Il n'y a pas de recette miracle. Pour ancrer dans la pratique, dans le temps, elle se pratique de partout, n'importe où, n'importe quand, dans une attitude humble, sans aucune attente, comme les enfants qui découvrent, en gardant à l'esprit que dans la méditation, on n'est jamais arrivé. Et c'est être ouvert à ce qui survient. Ça peut être la qualité du silence, si nous nous taisons 2 secondes. Puis ça peut être les sons qui parviennent, comme si nous les entendions pour la première fois, sans les analyser, juste vivre l'instant en finalité. Juste
donc c'est l'instant.
L'instant.
C'est juste l'instant.
Juste l'instant.
Comme nous sur RCFM actuellement.
Exactement.
Donc on est pleinement conscient de ces émotions. On peut se donc... Alors, je n'arrive pas à dire cette question. En restant pleinement conscient de l'émotion qui a perturbé, curieux et bienveillant.
Mais il y a la 68e avant.
D'accord. Ah oui, mon Dieu. Donc, méditer, qu'est-ce que c'est finalement, Marie-Ange?
Alors, ce n'est pas partir dans son jardin secret, mais entrer dans l'instant qui passe. Alors, il y a une émotion perturbatrice qui peut surgir. On l'accueille. Elle a peut-être un message qui mérite d'être entendu, sans jugement. Puis, on va revenir à l'ancrage, la respiration. On va accueillir, respirer encore, rencontrer la réalité du moment présent. On va rester droit sur le siège, dans une position d'unité, de dignité. On va faire circuler le souffle, pleinement présent. On va être curieux, on va écouter, on va ressentir, on va observer sans rejeter, ni vouloir changer. Se dire peut-être, comment est le corps là? Est-il bien posé? Voilà.
Donc on prend conscience aussi des émotions négatives aussi.
Oui, on les laisse passer.
Positives, négatives?
Comme les
positives,
nuages,
on les garde.
Comme les nuages. C'est-à-dire, on ne se met pas en relaxation, affalé, en train de se dire « Ah là là, je vais partir dans mon jardin secret pour penser à quelque chose de positif. » On va vivre juste l'instant.
Marie-Ange, on va vous retrouver demain, on va continuer, puisque là, c'est notre minute, c'est nos minutes de relaxation, de méditation. Et on va continuer avec vous à parler d'un autre sujet. À demain.
À demain.
Au revoir Marie-Ange. Une chronique à podcaster sur notre site France Bleu RCFM. On retrouve Marie-Ange Coux qui est sur RCFM. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Valérie, quel plaisir.
Oui, puis vous venez à pied, vous êtes une sportive.
Oui, oui.
Vous avez le joug rose.
Tout à fait.
Marie-Ange, on donne des conseils à nos auditeurs, y compris nous-mêmes, hein, pour être mieux, pour déstresser. On peut bien sûr écouter notre chronique en podcast sur RCFM, c'est pour ceux qui veulent la réécouter à volonté. Bella Anima. Alors Marie-Ange, on parle encore de l'estime de soi, de la confiance en soi chez l'enfant.
Chez l'enfant.
On va parler d'un phénomène qui est assez terrible, c'est ce qu'on appelle les enfants rois.
Oui, et les conséquences.
Comment ça se passe avec ces enfants rois? Il faut les laisser prendre leur envol, les enfants, leur apprendre à vivre différemment? Comment ça se passe?
Disons que plus tard, ce seront des adultes plus affirmés, plus positionnés, en évitant certaines choses que nous allons voir par la suite.
Il faut les encadrer quand même.
Il faut les encadrer et leur donner des règles, oui.
Sinon, c'est la folie.
Sinon, c'est la folie.
Donc, première question, ça veut dire qu'il faut mieux se connaître, c'est ça le principe.
Mieux se connaître, cela renforce la confiance et l'estime de soi, permet aussi de lâcher prise, permet de cultiver l'optimisme et même la patience, et aussi pour nous éviter de se laisser manipuler par soi-même. Car il nous arrive dans la vie parfois que nous nous fassions manipuler par nous-mêmes parce que nous voulons tant une chose que nous passons outre certaines de nos valeurs. Et pour l'obtenir, nous accusons l'autre. Et à nous de nous responsabiliser et l'utile de mieux se connaître pour ne pas dire après, par la suite, j'ai été manipulée. On entend que ça, j'ai été manipulée. Ben, on se manipule soi-même.
On s'auto-manipule.
Oui, puisque nous ne respectons pas nos propres valeurs.
Vous avez parlé, Marie-Ange, de l'importance et des raisons du dialogue avec nos enfants, de leurs besoins, comment les aider pour renforcer leur confiance.
Oui, et la clé, c'est une bonne communication, de la franchise, une ambiance rassurante, en étant réceptif à ce que l'enfant dira. Et rappelez-vous aussi qu'une attitude surprotectrice nuit à l'estime de soi de l'enfant qui se dit alors qu'il est incapable de faire les choses lui-même. Donc, responsabiliser les enfants.
Et puis, de lui apprendre aussi à dire non.
Oui, non, fermement. Selon les situations, bien sûr. À travers ce nom, il va dessiner les contours de sa personnalité, il va découvrir ses choix, ses envies. Il va commencer petit à petit, quand c'est l'âge, à se détacher de l'autorité parentale. Il va chercher à affirmer son individualité. Après, certes, si c'est l'heure du coucher, il ne va pas choisir. S'il a 3 ans, si c'est l'heure du coucher, on ne va pas lui demander l'autorisation, ni son avis pour qu'il se couche.
Évidemment, mettre en place des règles familiales, on les a tous eues, ces règles familiales, sous forme de jeu, de façon assez ludique.
Et voir aussi où sont les limites. Alors, les jeux avec les enfants, prendre des couleurs, faire des dessins, les roues des besoins, s'intéresser au contenu des besoins et se reporter à la fameuse échelle de Maslow qui correspond aussi aux enfants, qu'on peut réécouter en podcast.
C'est le dialogue avec les petits, avec les enfants, la communication. Et comment l'enfant peut se confier aussi sur ses problèmes?
Oui, parce qu'en participant, ils vont prendre conscience que nous nous intéressons à leurs intérêts principaux. C'est des outils, ce sont des outils pour discuter avec lui, de l'intérêt de telle ou telle chose. Et cet enfant, il va nous surprendre agréablement, on va mieux le connaître, même si ce sont nos enfants. Et parfois, il va parler de ses peurs, de ses inquiétudes et de certains problèmes qui peuvent survenir et que vous découvrirez.
Alors, on ne naît pas confiant, on le devient, la confiance, ça se cultive?
Oui, elle se cultive, elle est indispensable dans l'apprentissage. Elle passe par l'étape du non, nous disions auparavant, pour s'autonomiser. Mais c'est aussi par la frustration que l'on va renforcer le futur. Et la frustration est structurante pour l'enfant. Elle facilite son accès à l'autonomie, à l'indépendance. Et pour que plus tard, il se fasse, et même rapidement, une opinion de lui-même, et non pas à partir de jugements, de généralisations. Vous imaginez si chaque désir de l'enfant était comblé chaque fois? Comment pourrait-il se responsabiliser? Et comment pourrait-il faire des choix et trouver des solutions à des obstacles?
Il faut apprendre, éduquer aussi à la frustration. C'est ça?
Oui, et quelque part, pour les parents, c'est un bon compromis entre respecter les besoins de l'enfant et savoir dire non lui aussi. Pour dépasser plus tard les conflits, renouer un bon dialogue, avoir recours à la récompense plutôt que toujours à la punition. Et finalement, ce qu'un parent obtient par la contrainte, on va dire, débouche rarement sur quelque chose de bon. C'est pas une autorité, c'est pas de l'autoritarisme.
Il faut trouver un compromis.
Oui, et François Dolto, auteur de La cause des enfants et de La cause des adolescents, proposait déjà à l'époque l'art d'éduquer avec des mots et prône le retour au bon sens, à la confiance, le respect, les limites et sur les règles de l'apprentissage précoce et des limites.
Eh bien, sur ces belles paroles de Françoise Dolto, vous pouvez bien
entendre... Bonne journée.
Réentendre notre émission en podcast.